Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
16 jours d'activisme à les violences basées sur le genre ont la peau dure au Mali. Plus de 7600 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés au Mali entre janvier et mai 2024, soit une augmentation de 89%. 98% des survivantes sont des femmes, dont 19% des filles de moins de 18 ans. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel d'octobre 2024 du Fonds des Nations Unies pour la population. NFPI, c'est dans ce contexte que le Mali célèbre du 25 novembre au 10 décembre les 16 jours d'activisme. Quels sont les acquis et les faiblesses enregistrées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, notamment sur les femmes et les filles? Pourquoi les violences persistent toujours? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Diko Amina Diko, présidente de Solidaris 2023. Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence, et Madame Traoré, victime de violences basées sur le genre. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Les activités de 16 jours d'activisme ont débuté hier à travers le monde. Le thème de cette année est « Riposter, reconstruire après les violences ». Madame Diko Amina Diko, présidente de Solidaris 223, pourquoi ce choix de ce thème?
Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Merci pour nous avoir donné cette occasion. À l'occasion des 16 jours d'activisme. Qui dit 16 jours d'activisme dit d'abord 16 jours de lutte acharnée contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parce qu'on dit VBG, certes, parce que les VBG englobent et les femmes et les filles. Mais les 16 jours sont dédiés uniquement pour les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, il est normal, il est vraiment crucial de rappeler cela. Ces thèmes, parce que jusque-là, depuis un certain temps, on se bat, mais les violences, on en rencontre tous les jours. Donc, on ne va pas baisser les bras, on va continuer chaque année à se battre pour que nous puissions avoir un monde sans violence, que ce soit violence faite aux femmes et aux filles ou que ce soit les violences basées sur le genre.
Vous l'avez dit, hein, 16 jours d'intense combat pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Est-ce que les activités de ces 16 jours d'activisme ont commencé déjà au Mali?
Bon, là où je suis présentement, je n'ai pas une information qui me dit que le lancement a eu lieu, le lancement national, non. Mais en dehors de cela, depuis avant-hier soir, en prélude du 25 novembre, sur les réseaux sociaux, il y a des organisations comme Solidaris 223, Sankore Labs, La Femme en Moi et beaucoup d'autres qui ont commencé la campagne digitale. Donc on peut dire que oui, les activités ont commencé.
Alors comment se présente aujourd'hui la situation des violences basées sur les femmes et sur les filles?
Bon. C'est une la situation, elle est vraiment précaire. Vraiment, les violences, c'est, je ne sais pas. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que s'il s'agit de sensibilisation, de formation et de formation, il y en a eu. Mais nous, à notre niveau à Solidaris, il ne se passe pas un jour où on n'a pas un cas de femme victime de VBG ou d'une fille victime de viol ou de violence conjugale.
Des sensibilisations, des formations en faveur de qui, par exemple?
Des sensibilisations et des formations en faveur des communautés. Parce que nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est aller vers les communautés, par exemple, vers les femmes, à travers leur baronnie, comme disent ici à Bamako. Ils ont des associations, des tontines et autres. On va vers ces femmes pour essayer d'échanger avec elles pour qu'elles puissent savoir au moins ce que c'est ces VBG. En dehors des femmes aussi, nous faisons des causeries débats avec les leaders religieux, les femmes et, comment dirais-je, les femmes musulmanes de ces quartiers et autres. Et aussi avec les notabilités, parce que très souvent, quand on regroupe ces femmes, on fait tout pour que ces notables soient là, pour qu'ils puissent aussi nous aider et à faire entendre nos voix par rapport à ces violences.
D'accord. Mamadou Sidibé, vous êtes porte-parole de l'initiative Zéro Violence. Des agressions physiques, parfois mortelles, qui continuent d'être enregistrées. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation?
Ok, merci beaucoup, M. Maïga. Et bonsoir et bonjour aux téléspectateurs et autres en fonction de leur heure d'écoute. Avant tout propos, je tiens quand même à saluer mon co-débatteur, bien sûr. Et vous savez, cette histoire de violence faite aux femmes, si nous devons réellement essayer de trouver... Vous me demandez quelles sont éventuellement les causes. Moi, je dirais sincèrement qu'il y a un problème éducationnel. Parce que la société malienne, malheureusement, est dans une phase où nous essayons bien évidemment, d'un côté, de vivre en tant que Maliens, et de l'autre côté, nous essayons bien évidemment d'adopter les modes de vie des Occidentaux. Et cela, malheureusement, il y a encore 30 ans, si vous regardez un tout petit peu, il n'y avait pas de campagne de sensibilisation contre, bien sûr, ces violences. Mais malgré le fait qu'il n'y avait pas de campagne, il n'y avait pratiquement pas de violences faites aux femmes à une échelle même, c'est-à-dire visible. Personne n'en parlait parce que c'était même très, très rare. Si on entendait, c'était
des cas... Est-ce que ce n'était pas une question de tabou à l'époque?
Je viens, ce n'est même pas qu'une question de tabou. Quand j'ai parlé de... Le fait qu'aujourd'hui, la société malienne s'est effritée. Parce que, au fait, dans l'éducation ancienne, il y avait beaucoup de facteurs qui concouraient bien évidemment à ce qu'il n'y ait jamais de violence, à ce qu'il n'y ait jamais de violence, des disputes même... A fortiori des violences, en arriver à une violence entre époux et épouse. Cela était dû au fait que les gens vivaient dans un premier temps dans une très grande famille. Et dans cette famille, non seulement il y avait les maris, la femme, il y avait bien évidemment les grands-parents, il y avait les oncles, il y avait pas mal d'autres personnes bien évidemment qui tournaient. Donc le fait que tout le monde se retrouvait dans une cour commune, je l'ai dit une fois lors de mon passage ici, et je parle avec mon expérience personnelle et mon vécu personnel. Vous savez, quand on se marie, ça trouve souvent qu'on est très jeune. Et autrefois, les mamans et les papas veillaient bien évidemment sur les jeunes mariés. Quand ils sentaient même qu'il y avait une tension entre l'homme et la femme, la maman intervenait sans que bien évidemment personne n'ait eu à la dire quoi que ce soit. Il suffisait qu'elle se rende compte qu'il y a quand même une mésentente, ou bien que l'homme ne parle pas à sa femme, ou bien que la femme ne parle pas à son mari. Où le papa ou la maman intervenait pour essayer, bien évidemment, d'arrêter l'hémorragie avant que ça ne dégénère. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous avons tendance, bien évidemment, à nous marier. Et aussitôt, après le mariage, bien évidemment, nous quittons les grandes familles. Ce qui nous amène à gérer tout ce que nous aurons comme problème à deux. C'est-à-dire, nous sommes avec notre femme. Quoi qu'il y ait comme problème, nous devons nous-mêmes ou bien les résoudre ou bien en découdre. À partir du moment où il n'y a pas une intervention extérieure, c'est-à-dire les papas, les grands-parents et autres n'interviennent plus, à partir du moment où on n'a pas peur vraiment de la réaction de la famille qui est autour de nous, il va de soi, compte tenu de l'impréparation dans laquelle nous nous trouvons même avant d'accéder au mariage, les violences ne peuvent qu'aller que crescendo. Ça, c'est naturel.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous parlez de manque d'éducation.
Absolument. Il y a une éducation. Hein, et aussi, il y a bien évidemment le tissu familial qui s'est effrité. Aujourd'hui, vous voyez un jeune de 28 ans, 30 ans, il s'est marié. Et le lendemain, vous le trouvez dans une villa avec sa femme, qui a 18, peut-être 22 ans. Ni l'un ni l'autre n'ayant aucune expérience de ce que c'est qu'un mariage.
Et bien éduquer les enfants.
Non, même éduquer les enfants, ce n'est même pas ça d'abord. Entre les mariés, d'abord, il faudrait que les choses se passent bien pour en arriver aux enfants. Mais déjà, entre jeunes couples, c'est pourquoi on fait toujours des statistiques aujourd'hui démontrant que le taux de divorce est plus élevé à la limite que le taux de mariage, de pourcentage. Donc, depuis là, ça ne va pas. Ça veut dire que les gens vont au mariage sans y être préparés. Et si vous voyez les violences généralement dont les associations font cas, vous trouverez que c'est généralement dans les couples que ces violences interviennent majoritairement. Et cela prouve encore une fois qu'il y a une impréparation, un, et deuxièmement, le fait que les familles se soient disloquées et qu'on se soit retrouvé avec des familles nucléaires. Il y a qui pour dire à Jean ou à Mathieu pour dire que non, ne touche pas à ta femme ou bien fais attention. Moi, personnellement, j'ai été conseillé plusieurs fois par ma maman, paix à son âme. Quand il m'arrivait de déborder, ma maman m'appelait en cachette. Elle me dit, fais attention. Ce que tu fais là, c'est pas comme ça que ça se fait. Tu as une épouse. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Imagine si moi, ma maman n'était pas là-bas et que je me retrouvais seul avec ma femme. Ça allait être peut-être compliqué. Donc, très sincèrement, le fait que nous avons voulu épouser aujourd'hui deux modes de vie qui ne se retrouvent en rien, le mode occidental et le mode, bien évidemment, malien dans lequel nous sommes tous nés et élevés, ça fait qu'il y a un couac.
D'accord. Vous mettez en avant le manque d'éducation, le fait de se marier bien avant l'âge demandé. Alors, que peut-on retenir donc de la mobilisation pour freiner ces violences à l'égard des femmes et des filles?
Au fait, c'est ce que j'ai dit, j'allais même en venir. Le fait de décréter deux semaines de campagne intensive, moi je pense que ça, quand on parle d'éducation, l'éducation c'est un fait de tous les jours. Ce n'est pas une période déterminée pendant laquelle nous venons vers les gens pour leur dire... Non. Cette campagne, ça doit être depuis, bien évidemment. C'est ce que j'ai dit. Au fait, il faut que nous sachions réellement où nous voulons aller. Quand je dis cela, tu ne peux pas élever ton enfant avec des valeurs, bien évidemment, propres à toi, avec des valeurs maliennes, et que l'enfant, je vois très mal qu'il puisse se retrouver après à verser, bien évidemment, dans de la violence contre sa femme ou bien contre son mari. Moi, je ne crois pas. Mais si nous voulons élever les enfants entre, bien évidemment, deux mondes, c'est-à-dire le monde occidental et le monde malien, finalement, les enfants ne savent plus quelle attitude adopter vis-à-vis, bien évidemment, de leur mari ou de leur femme. Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes filles, il y a pas mal de jeunes garçons qui essaient de vivre en essayant d'adopter leur vie selon les feuilletons qui les regardent ça et là. Et c'est très, très dommage. Parce qu'ils oublient que c'est des choses qui sont là pour les distraire.
D'accord.
Mais ils veulent même prendre ça pour de la réalité et vivre en fonction.
D'accord.
Donc moi, je pense sincèrement pour vous dire que les campagnes doivent être une histoire de tous les jours. Ça doit être au niveau des familles, ça doit être éducationnel. Les parents doivent veiller. Depuis que les filles ont 5 ans, 6 ans, on doit leur inculquer un peu comment se comporter dans un foyer.
D'accord.
Et aux hommes également. La même chose.
Madame Traoré, vous êtes victime de violences. On a souhaité garder votre nom en anonymat. Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement? Madame Traoré, vous êtes là?
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Bien.
Je disais, vous êtes victime de violence et on a souhaité garder votre nom en anonymat. Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Merci pour la question. Je dis aller en mariage comme un enfant qui partait à la maternelle, à bas âge. Je ne peux pas encore mentir, je n'ai pas atteint la majorité. Et dû me marier et partir dans un foyer à moitié. Ça n'a pas été facile pour moi, sinon dire j'ai vécu l'enfer. J'ai subi toutes les formes de violence qui puissent exister. J'ai été battue, humiliée, insultée, rabaissée. Au début, je croyais que c'était normal. Je croyais que c'était normal jusqu'à ce que j'ai eu le déclic d'essayer de comparer mon foyer à celui de mes parents. Et là, je me dis, mais tiens, c'est pas la même chose que me dit maman. Maman ne souffre pas autant, je n'ai jamais vu pleurer, je n'ai jamais vu mon père m'insulter, je n'ai jamais vu mon père manquer de respect à ma maman. Pourquoi moi, je dois subir cela? Et à partir de là que j'ai eu le déclic, comme quoi je suis en train de subir quelque chose d'anormal, que je suis violentée, que je suis émotionnellement atteinte, que je suis une victime. Et j'ai décidé à partir de ce moment de ne plus me laisser faire. J'ai décidé à partir de ce moment d'être dans mes droits de femme. C'est pas une personne entière que ma vie veut mieux que ça et que je mérite mieux. C'est là que les vrais problèmes ont commencé également. Parce que avant, j'ai normalisé et maintenant, je dis bien non, je te le fais.
D'accord. Alors, lorsque vous avez dit hein, que vous avez subi toute forme de violence, que ce soit corporelle ou autre, alors au moment où vous subissez ces violences, quel est le premier réflexe que vous avez eu pendant ce temps-là?
Le réflexe que j'ai eu d'abord, c'était comparer ce que moi je vivais à ce que j'ai vu mes parents vivre. C'est à partir de là que j'ai eu le déclic. Du gouffre dans lequel j'étais, qu'il n'y avait rien de normal et rien comparé à ce qui est censé être un mariage.
Alors, comment vous avez pu surmonter cette épreuve?
Bon, j'ai pu le surmonter avec mes ambitions de jeune femme d'avoir le droit. Je me suis dit que j'avais le droit de vivre mieux. Et que je dois aller vers ce bonheur. Et pour moi, et pour mes enfants qui étaient aussi dans le même bateau que moi. Ce qui m'a poussé surtout à sortir, à dire stop et à mettre fin à ces violences, et en même temps à ce mariage, c'était la volonté de protéger mes enfants de cette violence pour qu'ils puissent être des personnes entières à l'avenir.
Madame Diko, vous venez d'écouter Madame Traoré, des déclarations qui donnent froid au dos en tout cas. Qu'est-ce qui explique selon vous, quelles sont les principales raisons qui amènent ce genre de violence dans le foyer?
Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ce genre de violence. Il n'y a pas de raison. Et M. Koulibaly, Sidibé, avait parlé des problèmes éducationnels. Cette victime en question, c'est une sœur à moi. Et si c'est une question d'éducation, elle est très bien éduquée. Très, très bien éduquée. C'est parce qu'elle est éduquée qu'elle a accepté le choix de ses parents. C'est mon amie d'enfance, on a fait l'école ensemble. Elle a été retirée pratiquement de l'école pour l'amener en mariage pendant que nous, on s'amusait. Bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de cause. Souvent, il y a des hommes qui pensent qu'ils ont le droit de vivre. Il suffit seulement d'épouser une femme pour avoir le droit de vie et le droit de mort sur elle. Et chez nous, je parle de Tombouctou. Comme il l'avait dit, et M. Sidibé l'avait dit, quand il y a ce genre de situation, c'était pratiquement tabou. On faisait tout pour que ça ne sorte pas de la maison. Donc les parents essayaient à leur niveau. Parce que même elle, pour en parler en famille, c'est un problème. Pour en parler en famille, c'est un problème. Maintenant, le jour où elle a la force et le courage d'en parler, on lui dira, ça va passer. Et là où le problème se pose, c'est chaque fois la femme qu'on essaie de raisonner. C'est chaque fois à la femme qu'on demande de patienter, ça va passer. Rarement, on voit l'homme entre les hommes, même par rapport à la célébration du mariage d'abord. Tout se fait autour de la femme. Les gens pensent que c'est la femme seulement qu'on doit préparer pour aller au mariage. Non, les hommes aussi ont besoin de ça. La façon dont les mamans se retrouvent autour de la mariée pour la conseiller, pour qu'elle puisse vraiment prendre soin de son foyer, les papas doivent faire de même pour les garçons. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Et à Tombouctou, je peux le dire, c'est quelque chose qui s'est fait. Parce qu'il y a une cérémonie qui s'appelle Tabaïkar, la cérémonie du turban. Et là, c'est comme si on te met devant tes responsabilités. Aujourd'hui, tu es homme, tu es appelé à gérer ton foyer. Et tu es appelé aussi à les gérer comme l'ont fait tes papas. Donc, il y a un suivi qui est là. Maintenant, il y a des gens qui sont violents naturellement. C'est tout ce qui peut amener ce truc. Sinon, je ne vois pas une cause qui peut pousser un homme qui a juré d'aimer une femme, de l'épouser, qu'elle soit une moitié de lui, et à la fin, qu'il puisse traiter cette dernière comme son ennemi. Voilà, je ne vois pas de cause si ce n'est pas la violence innée en la personne.
D'accord. Alors, quelles sont les conséquences qu'engendre en tout cas ce genre de violence, non seulement sur la victime, mais aussi sur les familles concernées?
La question est très bien et c'est une question qui vient pour nous-mêmes. Parce qu'elles sont cas, c'est un mariage familial. Donc, quand il y a un mariage familial, très souvent, on fait tout pour qu'il n'y ait pas une déchirure au sein de la communauté. Voilà. Donc, avant, ce qui se faisait, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'avant, les parents essayaient de voir ensemble comment gérer cette situation pour qu'il n'y ait pas vraiment une déchirure au sein de la famille. Et de nos jours, ce qui est fréquent, c'est de voir que dans la même famille où un cousin et une cousine se sont mariés, tu vas trouver que chaque famille essaie de défendre son enfant. Chaque famille essaie de défendre son enfant. Même si ton fils a tort, tu vas tout faire pour faire porter le chapeau à sa femme. Malgré le fait qu'elle soit sa sœur. Comme il l'a dit, il y a aussi ces problèmes qu'on vit aujourd'hui. Les familles d'avant, la façon dont les familles étaient soudées, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avant, c'était vraiment l'histoire des grandes familles. Il avait même parlé de se marier et rester en famille. Tel n'était pas le cas chez nous, au Nord. Si tu te décides à te marier, cela veut dire que tu es responsable. Tu ne te maries pas pour amener ta femme en famille. Tu te maries et tu sors pour aller vivre ta vie de foyer avec ta femme, parce que tu es responsable. Mais dans cette vie, dis-toi qu'il y a des regards qui sont vers toi. Des gens qui sont là, qui veillent sur toi, qui veillent pour la réussite de ce foyer. Et de nos jours, bon, même au sein de ces grandes familles, il y a ces violences qui sont là. Hein. Il y a ces violences qui sont là parce que il a parlé des problèmes d'éducation, je vais revenir sur ça. Les parents ont un peu démissionné. Ils ont démissionné pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès que ton enfant a les moyens plus que toi, il est responsable en famille. Il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Quel que soit ce que tu avais comme moyen, tu restes un enfant. Tant que les parents sont là, il y a certains comportements, tu ne peux pas l'adopter envers eux. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a ces jeunes couples qui sont en conflit. Les parents sont là, ils n'y peuvent absolument rien. Moi, il y a une maman qui m'a appelée pour me dire, bon, j'ai eu votre contact à travers quelqu'un. C'est pour vous parler de la situation que mon fils fait vivre à sa femme. Il vit dans la grande famille. Et si vous pouvez même m'aider à le faire enfermer, je suis prête. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant ne puisse écouter ses parents? Donc les conséquences, ça a vraiment une grande répercussion et sur les familles. Celle qui vient juste de parler, je vous jure, ces enfants sont tellement marqués. Elles sont tellement marquées. C'est des enfants qui sont, quand tu le vois, c'est des enfants qui ont peur. Elles ne veulent même pas quitter à côté de leur maman. Donc, il y a aussi les conséquences. Parce que les enfants qui vivent dans un foyer et violent, si c'est les garçons, c'est des gens qui sont des potentiels violents. Hein, parce que pour eux, le fait que papa se met à battre maman, c'est normal. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont mûrir après. Et quand c'est les filles, elles auront une peur bleue pour les hommes. Certaines ne penseront même pas à se marier.
D'accord. Sidi Bé, au regard de la persistance des violences, est-ce que les autorités en charge ont pris des mesures dissuasives?
Bon, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il y ait, en dehors, bien sûr, de la lutte que mènent les associations féminines pour vraiment même amener et sinon exiger des autorités des sanctions, ça et là. C'est vrai, les lignes ont peut-être un tout petit peu bougé d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent se retrouver aujourd'hui sanctionnés et autres. Mais comme je l'ai dit, quand je parlais tantôt de l'éducation, je ne parlais pas, madame, exclusivement de l'éducation des filles, non. Je parle de l'éducation dans son ensemble. Parce que si la fille est éduquée et que l'homme ne l'est pas, ça revient un peu à la même chose. Un premier aspect. Deuxième aspect, au fait, les autorités ne peuvent venir qu'en appoint. Ce que j'ai dit... Quoi que l'on dise, nous allons toujours revenir malheureusement au fait qu'elle a si bien dit qu'il y a des gens qui ont la violence en eux. C'est inné chez eux. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le problème fondamental, c'est dû exclusivement, selon mon vécu personnel. Quand je vous ai dit que ma maman m'interpellait, pourtant c'est moi qui suis son fils. Mais malgré cela, elle me réprimandait en cachette. Elle me dit non. Ce que tu fais là, ce n'est pas acceptable, ce n'est même pas admissible. Donc, je ne souhaiterais plus jamais vraiment que tu fasses telle ou telle chose. Et donc, voyez un tout petit pays jusqu'où les parents jouaient leur rôle. La démission des parents, c'est une évidence. Et aujourd'hui, les gens ont préféré, bien évidemment, mettre souvent... Les enfants sont devenus les maîtres de leurs parents. Et c'est ce qui nous amène malheureusement à vivre l'invivable. Parce que vous voyez, dans une famille, elle l'a si bien dit, vous trouverez que l'homme n'a pas raison. Ou même souvent, c'est la femme qui n'a pas raison. Mais les parents exigent qu'elle tienne tête bien qu'elle n'a pas raison. Ou bien que l'homme tienne tête bien qu'il n'a pas raison. Dans des conditions comme cela, ça ne marchera jamais. Alors qu'autrefois, les deux familles se mettaient ensemble pour obliger, bien évidemment, un consensus entre les mariés. Et ça évitait indéniablement. Et les gens tenant compte des relations souvent. Parce que les mariages, ça, il faut être préparé pour aller au mariage. N'oublions jamais cela.
D'accord.
Parce que sans être préparé, on marie une femme, elle l'a dit. Souvent, on pense que c'est une propriété qu'on vient de nous donner.
D'accord.
Donc, pour un oui ou un non, on se permet quand même d'aller à la violence alors que ce n'est même pas la peine.
D'accord. Vous êtes porte-parole de l'initiative Zéro Violence.
Oui.
Quelles sont au quotidien les actions que vous menez pour lutter contre ces violences contre les femmes et les filles?
Ok. Au fait, c'est même bien que nous puissions quand même... Parce que nous, au départ, en réalité, nous étions quand même un mouvement axé, bien évidemment, sur la sphère politique. Mais à chaque fois qu'on m'invite... Ça me donne bien évidemment une idée d'essayer d'apporter une plus-value bien évidemment à cette question fondamentale qui est la violence faite aux femmes. Et nous allons nous appesantir là-dessus et user de tout notre pouvoir comme nous avons eu à le faire pour vraiment aider ça et là les gens à ce qu'il y ait moins de violences vraiment faites aux femmes. Je dirais tout simplement que l'initiative Zéro Violence, comme je le disais, nous on évoluait dans le cadre bien évidemment politique. C'est-à-dire que quand il y a des élections, quand il y a les conflits intercommunautaires, nous, on évitait à un niveau macro. C'est-à-dire qu'on essayait de tout faire pour que les pays puissent être tranquillisés afin qu'il n'y ait pas de violence entre nous, Maliens, et entre politique et pouvoir en place et autres. Donc c'est dans ces cas précis que nous, on a eu à beaucoup
travailler.
Mais je l'ai dit, ça fait deux fois qu'on m'invite sur les mêmes débats. Il y a beaucoup de femmes qui sont avec nous à l'initiative Zéro Violence. Et il y en a qui sont même dans les associations féminines. Donc nous allons essayer de trouver vraiment un moyen pour faire une jonction et apporter, parce que nous avons une expérience quand même dans la lutte, dans la campagne et tout, et nous allons voir comment davantage vraiment nous apaisantir et apporter une touche dans cette lutte-là.
D'accord. Oui. Madame Traoré, vous avez dit que vous avez été donnée en mariage comme un bébé qui partait à l'école. Est-ce aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre foyer conjugal? Est-ce que vous êtes toujours dans le même foyer conjugal?
Non.
Mais alors aujourd'hui, comment vous vous sentez dans ce nouveau foyer conjugal?
Tout se passe bien pour moi, alhamdoulilah. Me reconstruire et j'ai pu vivre avec mes plaies que je pensais et avec ma volonté d'aller de l'avant et ne sachant avoir le droit d'aimer et de revivre encore une vie de femme épanouie. Voilà, c'est ce que je vis en ce moment aujourd'hui, alhamdoulilah.
Avez-vous eu un accompagnement psychologique?
J'ai été mon propre psychologue.
J'ai pas compris?
J'ai été mon propre psychologue.
Comment?
Je savais que j'avais droit à aller de l'avant, que déjà j'ai eu la chance de reconnaître ce que je vivais comme étant injuste. Il me fallait juste me donner le temps à moi-même d'accepter que j'ai accepté, que je ne devais pas accepter, de pas de mettre ça derrière moi et m'ouvrir encore à la vie.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez été accompagné par exemple par les organisations qui s'occupent de ce genre de violences faites aux femmes?
Non, je n'ai pas eu d'accompagnement aucun. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a ces associations qui crient droits des femmes, ces associations qui aident les femmes victimes et autres. Donc moi-même aujourd'hui, je fais ce même boulot pour éviter à d'autres de vivre ce que j'ai vécu et les faire comprendre qu'ils ont droit à aller de l'avant et revivre.
Donc vous menez ce combat de non-violence contre les femmes.
Oui, je mène ce combat. Et je me suis engagée à défendre les femmes.
D'accord. Madame, oui. dans vos combats de tous les jours, quelles sont les formes de violence les plus graves que vous enregistrez?
En fait, moi, je me dis toutes les violences sont graves. Parce qu'une femme qui a été battue, c'est sûr qu'elle a subi toutes les formes de violence, comme vient de dire la dame. Donc, avant de te battre, d'abord, on va commencer par t'humilier avec des insultes, la violence psychologique et autres. Et ce qui est très, très fréquent de nos jours maintenant, c'est les déni de ressources. Parce qu'il y a ces femmes, avant de se marier, c'est des femmes qui travaillaient déjà. Donc, après le mariage, il y a le monsieur qui s'impose pour qu'elle ne travaille plus. Donc, c'est des violences que nous rencontrons ces derniers temps et c'est des violences qui sont cause de divorce de nos jours.
D'accord. Alors, comment se fait la prise en charge des cas de victimes que vous enregistrez?
Nous, à notre niveau, nous sommes une association, on a l'habitude de dire, nous sommes une association, nos moyens sont limités. Mais quand même, à notre niveau, nous faisons l'accompagnement. L'accompagnement, c'est surtout quand ces victimes viennent vers nous, on les écoute. À notre niveau, on ne peut pas parler de conseils parce qu'on n'est pas habilité à conseiller les victimes. Et ce qu'on fait, c'est de les orienter vers les instances de prise en charge. Et il y a le One Stop Center, qu'on appelle guichet unique au Mali, qui se trouve au sein des maternités. C'est en commune 5, en commune 4, au niveau du GMS et puis au niveau du CCRF de Korofina. Donc, il y a un local là-bas qui est habilité au niveau des maternités, mais qui ne reçoit que les victimes de ces violences. Donc là-bas, la prise en charge, elle est totale. C'est la prise en charge holistique. Il y a la prise en charge judiciaire, juridique, psychologique et médicale. Mmh. En plus de ça, nous travaillons aussi avec la clinique juridique Triged. Donc eux aussi, ils nous accompagnent dans la prise en charge de ces femmes.
Depuis la création de votre association à aujourd'hui, combien de victimes vous avez y enregistrées?
Bon, nous, à notre niveau, nous sommes à notre 10e année. Mais c'est les premières activités que l'association a eu à faire, c'était même des marches contre ces violences-là. Parce que notre volet est VBG. Porte le nom de Mariam Diallo, le sourire de Mariam Diallo. Mariam Diallo, c'est une jeune dame qui a été assassinée à coups de 17 coups de couteau par son mari en 2015. Donc c'est à travers ça qu'on a eu à faire une marche silencieuse pour parler de ces violences. Donc on a vraiment beaucoup de femmes. Je ne peux pas dire le nombre exact que nous avons aujourd'hui, mais il ne se passe pas un mois où on n'a pas deux ou trois cas qu'on oriente vers ces structures de prise en charge. Donc, en plus de cela aussi, après la prise en charge, il y a certaines femmes qui au moment de la procédure juridique, elles se rétractent. Elles ne veulent plus divorcer. Et nous, à notre niveau, on n'a aucun droit sur ces femmes de les imposer le divorce. Ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner, être juste à côté d'elles pour les mettre à l'aise. Donc, si elles décident de ne plus divorcer, on arrête la procédure. Celles qui divorcent, et aussi souvent, il y a beaucoup qui ne veulent pas partir parce qu'elles se disent que je quitte ce foyer, je ne peux pas retourner en famille parce que je n'ai même pas de quoi subvenir à mes besoins. Donc, elle se voit obligée de rester dans ces foyers violents. Souvent, quand elle quitte, on les accompagne pour la réinsertion socio-économique à travers une activité génératrice de revenus. Donc, elles sont nombreuses, ces femmes que nous avons accompagnées. Certains ont à faire des formations en coiffure, d'autres en coupe et couture. Aujourd'hui, elles ont leur atelier. D'autres aussi qui vendent des friperies. Ce qui me fait plus chaud au cœur, c'est de voir que ces femmes, c'est des femmes qui se retrouvent toutes seules à faire face aux besoins de leurs enfants. Donc, tout ce qu'elles entreprennent, tout ce qu'elles gagnent dans ces activités rentre dans l'éducation de leurs enfants.
D'accord. Dans votre introduction, vous avez dit que vous avez mené des campagnes de sensibilisation, de formation en faveur des communautés. Comment est perçue la communication autour des violences basées sur le genre, notamment sur les femmes et les filles?
Au fait, c'est là où le problème se pose. C'est là où les problèmes se posent. Parce que quand on parle des VBG, avant on parlait surtout des violences faites aux femmes et aux filles. Maintenant, pour amener les hommes à faire ce combat avec nous, il y a le terme VBG qui est venu, qui prend en compte et les hommes et les femmes. Il faut aussi se les dire. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de ces violences. Il ne s'agit pas seulement de violences.
Est-ce qu'ils font des déclarations?
C'est là où se pose le problème. Parce qu'ils se disent qu'ils sont des hommes, ils ne doivent pas en parler. Parce qu'un homme ne peut pas être victime d'une femme. Mais nous, à notre niveau, très souvent, dans nos échanges, on arrive à échanger avec des jeunes frères à nous qui viennent nous voir pour nous expliquer la situation, ce qu'ils vivent avec leurs femmes. Donc, force est de reconnaître, même si c'est un pourcentage faible, il y a de ces hommes qui sont vraiment victimes de ces violences.
D'accord. Ouais. Monsieur Sidibé, est-ce qu'on note vraiment une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes?
Bon, au regard des statistiques, moi, je dirais non, malheureusement. Mais toujours est-il que madame a quand même touché un tout petit peu et quelque chose que je voulais même développer un tout petit peu. Parce que l'accent est plus mis, bien évidemment, sur les femmes dans la lutte des associations féminines. Même si tout à l'heure, elle a quand même fait allusion au fait que les hommes aussi soient victimes des violences. Mais au-delà de cela, moi je pense que, même après l'émission, on pourrait échanger sur ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une violence dans un foyer, et souvent c'est les femmes qui sont écoutées par les associations féminines. Et je pense aujourd'hui qu'il y a lieu d'aller bien évidemment vers l'écoute même des hommes qui sont acteurs bien évidemment de ces violences. Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de facteurs souvent qui amènent un homme à aller jusqu'à la violence. Mais ce qui est vu au finish, c'est la violence, bien évidemment, que l'homme fait à la femme. Mais qu'est-ce qui a engendré, bien évidemment? Parce qu'il y a tout un processus, souvent, qui se déroule et qui amène l'homme à aller vers la violence. Je n'essaie pas de défendre, bien évidemment, les hommes violents. Non, 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 pas du tout. Mais en tant qu'homme, en tant qu'époux, nous vivons tous la même réalité. Et nous rencontrons tous des gens, même en dehors de nos cadres respectifs, dans les causeries, dans les familles et tout, nous rencontrons souvent des cas qui font que l'homme souvent n'a d'autre solution que d'aller vers la violence. Parce que si vous vous retrouvez devant une femme qui, à la limite, ne vous respecte pas, deuxièmement, qui ne fait jamais les choses comme vous le souhaitez, et à la limite, qui n'en fait qu'à sa tête, il y a des gens qui peuvent se maîtriser, il y a d'autres qui veulent parlementer. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui ne verront que de la violence comme moyen de répression. D'accord. Donc moi, je pense souvent qu'il est nécessaire, au lieu de n'écouter que les femmes, d'écouter également les hommes, de beaucoup sensibiliser les hommes, parce que c'est les hommes qui sont acteurs de ces violences-là plus que les femmes. Il y a une infime partie d'hommes qui sont aussi victimes de violences, certes, mais majoritairement, c'est les femmes qui sont victimes. Donc si la campagne s'adressait plus aux hommes en amont, moi, je pense que ça serait éventuellement le seul moyen, selon moi, de beaucoup jouer sur, bien évidemment, les taux très élevés aujourd'hui des violences faites aux femmes. Donc, je dirais à madame, après, on pourra échanger là-dessus.
D'accord.
Aujourd'hui, je pense que nous devons nous appesantir plus sur la sensibilisation des hommes, bien avant les mariages et même pendant les mariages.
D'accord.
Parce que les femmes aujourd'hui, les hommes féministes doivent avoir une entrée. Au lieu que vous ne soyez qu'au niveau, bien évidemment, des hôpitaux et autres, pour accueillir les femmes violentées, en amont, il y a des possibilités de faire une jonction au niveau, bien évidemment, des mairies lors des célébrations des mariages. Moi, je pense que les associations féminines doivent avoir, comment on appelle, un moyen de rentrer en relation avec les mères qui célèbrent les mariages.
D'accord.
Pour que lors des cérémonies des mariages, qu'on fasse cas, bien évidemment, de ces genres de choses. Et ça peut amener beaucoup d'hommes, souvent, à éviter, bien évidemment, même après les mariages, d'accord, dès qu'ils se rappelleront qu'il y a eu tel ou tel propos. Okay.
Il nous reste 5 minutes, on va essayer de faire le tour de table.
D'accord.
Madame Traoré, avez-vous toujours les séquelles de cette violence que vous avez vécue?
Okay. C'est depuis mes pensées. Elles peuvent se réouvrir à n'importe quel moment quand vous faites face à une femme qui vient vous raconter son problème qui est similaire à ce que vous avez vécu. Il peut nous arriver que cette plaie se réouvre, mais je me suis promis de ne jamais la laisser ouverte et j'y arrive parfaitement. Quand le sentiment me revient, des regrets, je ne donne pas le temps, en fait. Je ne donne pas le temps de continuer à vivre dans cet enfer dont je suis sortie.
D'accord. Alors, vous avez dit que vous faites également la lutte. La lutte acharnée aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont bougé?
Bon, c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est malgré toutes les sensibilisations, malgré tous les forums, on continue à recenser quand même assez de cas de violence. Mais ça ne nous décourage pas. On se dit peut-être que c'est parce que c'est encore plus... Les gens sont... Comment dirais-je? On se dit peut-être que c'est parce que les gens sont sortis du silence. Ce qui fait qu'on rencontre encore plus de cas. Et ça, c'est une avancée pour nous.
Alors, quelles sont, selon vous, les faiblesses en matière de cette lutte?
Bon, c'est surtout la société. C'est la société. Le fait de légitimer les violences faites aux femmes. Le fait de dire aux femmes que tout cela fait partie d'un mariage, alors qu'il n'y a aucune religion qui où il est dit quelque part que la femme doit subir de la violence de la part de son conjoint. C'est ça qui fatigue tant comment ces idées récits qui sont continuées à être entretenues par notre société, le combat sera encore très riche.
D'accord. Madame Diko, Madame Traoré parlait tout de suite du rôle de la société. Quel rôle la société peut-elle jouer dans cette lutte?
Bon, c'est le rôle de la société même qui est le rôle crucial. La société vraiment doit jouer un rôle crucial dans cette lutte. Parce qu'il faut d'abord, comme l'a dit M. Sidibé, il faut vraiment l'accompagnement des couples. Il faut être là pour les couples, les accompagner et les orienter pour réussir cette vie des familles.
Voilà. Que faut-il aujourd'hui concrètement pour changer la donne?
Bon, pour changer la donne, bon, certes, beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'avancée. Moi-même, j'ai toujours pensé. Et pour changer la donne, et comme je l'ai dit, je le répète encore, c'est de mener les hommes à ce combat. Et depuis un certain temps, nous, à notre niveau, même au niveau de Solidarité, ce qu'on fait, notre volet VBG est géré par un homme. Donc, on fait de telle sorte que nous ayons plus de he for she, des hommes qui seront là pour accompagner ces femmes, pour aussi, à leur niveau, sensibiliser leurs pères par rapport à ces violences.
Vous avez dit qu'il y a des hommes dans votre organisation. Il parlait tout à l'heure. Est-ce que les organisations de lutte contre les violences basées sur le genre approchent ou vont à la rencontre des hommes acteurs de ces violences-là?
Si, à notre niveau, oui, nous partons vers ces hommes, comme il l'a dit, d'écouter. Souvent, on écoute seulement les femmes. Mais à Solidaris, on écoute et l'homme et la femme.
Qu'est-ce que les hommes vous disent?
Bon, les raisons, c'est des violences émotionnelles et psychologiques qui sont là. Et aussi, ils subissent des violences. Ils se disent que c'est des violences psychologiques qui subissent.
Voilà. Sidibé, on termine avec vous. Comment y mettre fin à cette violence contre les femmes?
Selon moi, je suis là pour rendre hommage, bien évidemment, à ma mère, paix à son âme. Parce que chaque fois qu'on m'invite sur un plateau et parler des femmes, c'est ma mère que je vois prioritairement. Et je tiens à la rendre hommage. Et au-delà, nous nous devons d'expliquer aux hommes que nous sommes tous. Il n'est pas donné à tout homme de voir réellement qu'est-ce que c'est qu'une femme. Parce que c'est à ce niveau souvent que les bas blessent. Une femme, dans ce qu'on nous a dit, bien évidemment, de la religion et partout, la femme est issue de l'homme. Et Dieu, bien évidemment, dans sa grâce divine, a fait de sorte que l'homme également soit issu de la femme.
D'accord.
À ce niveau, déjà, l'homme et la femme ne font qu'un.
D'accord.
Deuxièmement, nous ne devons aucunement oublier. Moi, souvent, il m'arrive de m'asseoir et de dire aux gens, la société malienne, si elle est où elle est aujourd'hui, c'est grâce aux femmes.
D'accord.
Quand il y a une cérémonie de baptême, de mariage, de décès, c'est là que vous vous rendrez compte que sans les femmes, il n'y a rien.
D'accord. C'est sur ce mot que prend fin en ce grand dialogue qui réfléchissait sur les 16 jours d'activisme, les violences basées sur le genre ont la peau dure au Mali. Et nous étions avec Mme Diko, Amina Diko, présidente de Solidaris 223, Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence, et Mme Traoré, victime de violences basées sur le genre. Ainsi se referme ce grand dialogue qui vous a été présenté par Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.